France Culture.
Attention, certains propos que vous allez entendre peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Afin de préserver l'anonymat de certaines personnes, leurs voix ont été modifiées et leurs prénoms masqués.
Là, on se trouve dans le square en face de notre maison et nous partons vers la garderie où nous allons chercher donc notre petite fille. On l'accueille en fait, cette petite fille, exactement comme on aurait notre propre fille. D'ailleurs, on considère tout à fait que c'est notre propre fille. Elle va à l'école la journée, nous on va au travail et quand on rentre, on va la chercher et on s'occupe d'elle le soir et on est à la maison ensemble.
Donc cette petite fille, comment elle est arrivée chez vous ?
Alors en fait, c'est une assez longue histoire. On l'a rencontrée d'abord parce qu'on s'est inscrit à un programme de parrainage de proximité avec l'association France Parrainage, donc qui propose en fait à des citoyens d'accueillir et d'accompagner des enfants confiés à la protection de l'enfance, qui sont soit en famille d'accueil, soit en foyer de l'enfance généralement, et de les accueillir en fait et de les accompagner sur des temps spécifiques comme des mercredis, des week-ends, des vacances, leur faire en tous les cas découvrir autre chose que ce qu'ils voient dans leur quotidien en protection de l'enfance. Donc on était dans ce programme-là, et c'est dans le cadre de ce programme qu'on a rencontré... puisque France Parrainage nous l'a proposé. On a essayé, d'abord des mercredis après-midi, et puis après, assez vite, on est passé à des week-ends. En fait, au bout de 2 mois, déjà, on l'a accueillie en week-end, donc avec la nuitée. Et elle était à ce moment-là confiée en famille d'accueil. On a fonctionné comme ça avec elle pendant 2 années. Et là, ça fait maintenant 3 ans qu'on l'accueille à plein temps à la maison. Sachant qu'on est passé par plusieurs statuts. D'abord, elle nous a été confiée dans le cadre d'un placement direct via le département quand même, avec une ordonnance de placement direct, parce qu'il fallait qu'elle quitte sa famille d'accueil qui avait atteint sa limite d'âge. Et puis, après, on est devenu accueillant durable et bénévole, donc ce qu'on appelle l'accueil durable et bénévole, qui est un autre dispositif de la protection de l'enfance, mais là, qui consiste à accueillir à plein temps un enfant, comme dans une famille classique. C'est l'équivalent administratif en fait, de ce qu'on appelle les tiers dignes de confiance dans le domaine judiciaire. C'est la même mesure, mais sauf qu'elle n'est pas judiciarisée. C'est une mesure purement administrative. Voilà, et donc là, ça fait 3 ans que nous vivons avec elle à plein temps.
Protection de l'enfance, des histoires du quotidien. 4e épisode, trouver sa place. Xavier Nau, Thomas Duterre. Notre parcours en protection de l'enfance touche à sa fin. Il n'y a pas une façon unique de quitter la protection de l'enfance. Il y a les transitions douces vers la vie d'adulte, et puis il y a les ruptures qui fragilisent. Nous entendrons des anciens enfants placés nous dire, avec leurs mots et leurs histoires, l'espoir qui place dans cette politique publique et l'exigence qui devrait être l'affaire de tous pour permettre aux enfants confiés de trouver leur place. Une fois que l'on quitte l'ASE, une question demeure. Quel avenir pour la protection de l'enfance ? Pour réfléchir à cette question, il faut prendre le temps de comprendre d'où vient cette politique publique. Antoine Rivière, historien, nous accompagnera dans ce retour en arrière.
Si on veut faire remonter de façon lointaine cette histoire de la protection de l'enfance, on peut aller à l'œuvre de Saint-Vincent de Paul, XVIIe siècle. Et là, la première initiative du pouvoir royal, c'est de venir aider une initiative charitable qui vient de l'Église, en l'occurrence de Vincent de Paul. Et c'est simplement un soutien financier à son œuvre pour recueillir à Paris les enfants qu'on appelle les enfants trouvés à l'époque. La question de la protection de l'enfance, elle apparaît véritablement au XIXe siècle en tant que telle. Parce que jusque-là, il y a quand même l'idée que ceux qui ont le monopole de s'occuper des enfants, c'est leurs parents, leur famille élargie, mais que ça ne regarde pas tellement la sphère extérieure. Et la notion de protection de l'enfance apparaît quand apparaît l'idée qu'un enfant doit être protégé non seulement par ceux qui en ont la responsabilité directe, ses parents, sa famille, mais aussi au-delà, la collectivité. Alors, quelle collectivité ? Est-ce que c'est les institutions charitables et religieuses ? Est-ce que c'est l'État ? Mais en tout cas, ça apparaît véritablement à la fin du 19e siècle que dans les prérogatives des pouvoirs publics, il y a la protection des enfants.
Le garçon qu'on a baptisé a 9 ans aujourd'hui.
C'est l'enfant le plus récalcitrant que je connaisse.
Ce n'est pas étonnant. On n'est jamais arrivé à découvrir ses parents.
D'où lui vient donc le nom qu'il porte ?
Je l'ai inventé. Allons voir ce gamin.
Il y a un décret en 1811 qui est pris par Napoléon et qui va essayer d'organiser une prise en charge par la charité publique, c'est les termes qui sont utilisés dans le décret, des enfants orphelins et abandonnés. Et donc c'est le premier texte fondateur en ce sens qu'on voit définir une véritable politique de protection de l'enfance, c'est-à-dire définir des catégories d'enfants qui sont pris en charge et des modalités de prise en charge. C'est-à-dire, on dit, quels sont les enfants qui ont droit à la charité publique, les orphelins, les enfants trouvés, les enfants abandonnés, comment est-ce qu'on vient à leur secours ? Eh bien, par un accueil dans des hospices, qui sont dits hospices dépositaires, et dont le texte dit qu'il doit en exister un dans chaque département. On voit qu'il y a une accélération, pourrait-on dire, de la préoccupation autour de l'enfance malheureuse, de l'enfance délaissée, à la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Et là, on va avoir une succession de réformes législatives. Donc il y a la loi de 1874, qui est la loi dite Roussel, qui est une loi qui, pour la première fois, va s'intéresser aux enfants qui sont élevés en nourrice. Donc on a des enfants qui sont régulièrement confiés à des nourrices, et c'est une pratique qu'on retrouve dans toutes les couches de la société. Et c'est une pratique extrêmement courante, extrêmement répandue. Et jusque-là, ce qui prévaut, c'est l'accord entre la nourrice qui prend en charge les bébés et la famille, les parents. Là, la loi Roussel vient dire « l'État a un droit de regard sur cette pratique parce que, en quelque sorte, l'enfant appartient certes à sa famille, mais il appartient aussi à la communauté nationale. Et donc, il est normal que les pouvoirs publics viennent réguler, en quelque sorte, l'activité nourricière pour que les enfants qui sont confiés à des nourrices le soient dans de bonnes conditions. Et puis, on voit aussi, dans cette loi, un système de surveillance, d'inspection qui est mis en place pour aller voir dans quelles conditions vivent ces enfants.
Olivier, remonte ta casquette. Relève la tête.
Tu coucheras sous le comptoir si tu n'y vois pas d'inconvénient.
Oh non, madame.
Tant mieux, parce que si tu en voyais, ce serait la même chose. Il n'y a pas de place ailleurs.
Théophile Roussel va être à l'initiative d'une seconde loi extrêmement importante dans la période, qui est la loi du 24 juillet 1889, qui est une loi qui fait date parce que, pour la première fois, on envisage la possibilité que des parents qui ne donnent pas satisfaction du fait des mauvais traitements qu'ils imposent à leurs enfants peuvent être déchus de l'autorité qu'ils ont sur ces enfants. Autrement dit, on prend acte de ce que l'autorité paternelle n'est pas inconditionnelle, elle doit respecter un certain nombre de règles, de normes, et que si les pouvoirs publics considèrent que ces règles ne sont pas suivies, eh bien à ce moment-là, il faut trouver une alternative pour ces enfants, pour les protéger. Et donc la déchéance est possible, et la déchéance, une fois qu'elle est prononcée par les tribunaux, les enfants sont placés sous la tutelle de l'État, en l'occurrence sous la tutelle de ce qu'on appelle l'assistance publique à l'époque. L'idée générale, c'est que c'est à nouveau cette idée que l'enfant appartient à la communauté nationale, mais c'est aussi l'idée que l'enfant devient un bien précieux, parce qu'on est dans un contexte démographique où la natalité a fortement baissé depuis le milieu du 19e siècle en France, et que ça crée une très grande inquiétude pour les pouvoirs publics, parce que la thématique qui apparaît à ce moment-là, c'est la France risque de disparaître faute d'un nombre d'enfants suffisant. Et donc, on voit bien comment l'idée abstraite que l'enfant appartient à la communauté nationale devient une sorte d'urgence. urgence de sauvegarde de la nation. Il faut sauver les enfants qui naissent, qui sont peu nombreux et donc qui sont d'autant plus précieux. C'est ce qui explique cette longue séquence réformatrice et qui va être couronnée par la loi du 27 juin 1904 qui s'intéresse spécifiquement à ce qu'on appelle l'assistance à l'enfance et qui va mettre en place notamment toutes les règles des services départementaux d'assistance à l'enfance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille les enfants abandonnés, les enfants orphelins, les enfants trouvés. Qu'est-ce qu'on propose aussi comme alternative à l'abandon? Ça va être la naissance d'une politique préventive qui passe par les secours distribués aux FIMères, puisque les mères célibataires, qu'on appelle à l'époque les FIMères, sont les premières pourvoyeuses des hospices d'enfants abandonnés. Et donc, voilà, on voit cette grande loi qui met en place à la fois un système d'accueil et un système de prévention pour éviter les abandons.
Alors qu'est-ce qu'on fait là par exemple, normalement?
Là on marche, on rentre chez nous.
Oui.
Et on va faire nos devoirs. Après douche, après dessin animé. Et après on va manger, brosser les dents avec l'appareil. Et après on va au lit.
Bonjour.
Ça va?
Et ça, c'est mon voisin.
Ça va?
Oui, c'est votre soirée.
Merci également.
Bonne soirée. Allez voir, ma chérie.
Mardi, il y a la maman de Papou Frédéric. Elle vient me garder le soir. Je dors chez elle. Et le mercredi, je repars à la maison. Ça, c'est mon école de musique. Je fais de la musique. Je fais du piano. Là, on va rentrer à la maison. Ce que je préfère dans la vie, c'est manger des pâtes, des pizzas, des sushis, des frites. Mais j'aime pas les légumes verts. À part le brocoli et le mandor aussi, j'adore. Mais les poivrons, c'est bête.
Et en plus, aujourd'hui, c'est quelle date, ma chérie?
Aujourd'hui, on est le lundi 1er décembre.
Alors, qu'est-ce qui se passe le 1er décembre?
Quelqu'un va ouvrir son cadeau.
De quoi?
Du calendrier.
De?
L'Avent.
Voilà. Aujourd'hui, on commence le calendrier de l'Avent. Alors, qui va faire aujourd'hui, tu crois?
Mon deuxième papa.
Tu penses que c'est Dadou?
Oui, je pense que c'est José.
D'abord, on va voir.
Antoine Rivière, historien.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les marches en avant de la protection de l'enfance, en fait, elle est combattue dès le début, cette politique-là, au début de la Troisième République, par un certain nombre d'hommes politiques proches de la droite conservatrice et qui sont relativement hostiles, d'abord à l'idée générale d'une intervention de l'État, mais en particulier une intervention de l'État dans le domaine familial et éducatif, au nom, en quelque sorte, de la défense de la puissance du père. On va rogner son autorité. Et en faisant ça, selon ces conservateurs, on ruine en vérité les bases mêmes de la société. La société repose sur un système hiérarchique, et le système hiérarchique, c'est la famille, et à l'intérieur de la famille, c'est la puissance du père.
J'ai la clé de tout ça. Ça se trouve, Dadou, il est parti prendre les poupées en plus.
Oui, peut-être.
Ah ben non, il est là.
Bonjour.
Ça va?
Ça va encore vous
dire le cadeau. Faites pas attention à lui.
À quel moment vous avez considéré que ça pouvait et ça allait devenir votre fille?
Je pense dès qu'on l'a accueillie de façon définitive. Enfin, je ne sais pas, il faudrait demander à José, parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question comme ça. Mais oui, moi, je dirais ça. Quand on a compris qu'on allait la voir à la maison tout le temps, que du coup, elle allait quitter la famille d'accueil et qu'on allait devenir sa famille et qu'on allait faire famille avec elle, très naturellement, on s'est dit, ben voilà, on va vivre avec elle tout le temps maintenant. Et on avait... On ne programme pas, évidemment, enfin, comme n'importe quel parent, on ne programme pas tout du tout, mais on sait, enfin, on a calculé l'âge qu'on aurait quand elle aurait 18 ans, quand elle passerait son bac et qu'elle passerait peut-être aux études supérieures, ou enfin, elle fera ce qu'elle veut faire, mais je veux dire, on s'est projeté aussi loin, quoi. On s'est dit, comment ça va se passer notre vie, à quel moment on peut l'emmener faire tel type de voyage, par exemple. Comme on aime beaucoup voyager, on s'est dit, tiens, par exemple, si on veut faire un long voyage, à quel âge on va l'emmener ? Voilà. Donc, les choses se font très, très naturellement. Et l'ordre des priorités, moi, c'est ça que je trouve très beau, c'est que dans la tête, ça se fait tout de suite. C'est-à-dire que même si on adore nos boulots, on sait que la vie de famille, elle est au-dessus et que, par exemple, si je suis en réunion et que mon téléphone sonne, en règle générale, je ne réponds jamais, sauf si c'est José ou l'école de...
C'était une évidence.
Oui. Ah oui, vraiment. Vraiment. Oui, vraiment. Non, c'est un premier cadeau, mais est-ce que c'est un seul premier cadeau ?
Non, c'est plusieurs. Ça, c'est un jeu de...
De cartes, un jeu de bataille.
Un jeu de bataille. Cool. Je l'aime beaucoup. En plus, un jeu de bataille de Noël.
Parfois, les mesures de placement durent jusqu'à la majorité des enfants confiés. Ces jeunes de 18 ans doivent donc se projeter dans une future vie sans le soutien de leurs parents. Comment devient-on adulte quand on a une vie d'enfant placé ? C'est ce que nous allons comprendre en rencontrant Sarah et Annaëlle.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté, Romain, éducateur.
Xavier.
Bonjour.
Bienvenue. Enchanté. Merci. Bonsoir, Sarah.
Bonsoir.
Donc, je peux vous demander votre âge ?
J'ai 18 ans.
18 ans, et donc vous êtes accueillis. On est où ici ?
À Ludosa. C'est une structure d'accompagnement à la semi-autonomie.
Vous êtes combien ici à vivre ?
On est 5 filles.
5 filles, que les filles ?
Et de base, on peut accueillir des garçons.
Et à quel moment vous êtes arrivés ici du coup ?
En avril. Avant mes 18 ans.
Avant vos 18 ans,
oui.
Ok. Je peux vous demander votre prénom ?
Annaëlle.
Annaëlle, et vous avez quel âge ?
19 ans.
Et vous êtes là depuis combien de temps ?
Ça va faire un an.
Un an, ok.
On fait les machines pour notre linge. Parce qu'à la maison enfant, du coup, c'était les dames de maison qui faisaient tout pour nous, quoi. En gros, elles faisaient nos machines, elles pliaient et on devait juste récupérer nos affaires. Alors que là, c'est vraiment nous, on fait tout sur ce point. Je savais pas faire une machine avant de venir ici, quoi.
Ouais. Donc moi, ça m'a arrêté. J'avais grave pas faire une machine et là maintenant, je fais comme si je savais déjà faire.
Quand je suis arrivée, je connaissais même pas les boutons. Je savais même pas comment faire. Bah, du coup, on vous montre la chambre vide. Ça, c'est une chambre double. Du coup, là, c'est une chambre double.
Mais du coup, on a un lit de place, on est quand même vraiment bien. Et on a un grand bureau, on est vraiment bien.
Vous aussi, vous étiez à la mer ?
Oui, au foyer. C'est depuis que j'ai 14 ans, je suis là-bas. Et du coup, depuis mes 18 ans, je suis ici.
Ils nous apprennent à vivre seuls. Après, il y en a qui gèrent moins bien la solitude que d'autres, comme moi, par exemple. Mais c'est beaucoup plus calme qu'à la maison enfant. Enfin, à la maison enfant, il y avait toujours un bruit, même le soir, même la nuit. Là, quand on dort, on dort. Et il n'y a pas de bruit.
Comment vous vous projetez sur l'après ASE?
Bah ça c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas trop à me projeter. Enfin, des fois j'ai envie de partir pour que ce soit moins dur le départ, mais en vrai je sais pas comment je vais faire après. Enfin, on me propose plein de solutions, mais les solutions comme un appartement thérapeutique, mais bon c'est un peu inquiétant on va dire d'être seule. Parce que du coup ça fait depuis mes 13 ans que je suis à la maison enfant et je sais pas vivre seule.
Et ça, vous en parlez avec vos éducateurs, vos éducatrices de cette question-là, de « j'ai peur de vivre seul et je ne sais pas trop comment ça va se passer ». À quel âge ça s'arrête ?
Ça a 21 ans que ça s'arrête. Enfin, moi, c'est bientôt. Et bah, pour moi, ça dépend jusqu'où va mon contrat jeune majeur, parce que j'ai jusqu'à 21 ans maximum. Mais s'ils ne le renouvellent pas jusqu'aux 21 ans, bah, je n'aurai pas le choix quoi, de partir.
Sarah, Anaëlle, vous venez nous faire visiter votre lieu de vie. C'est quoi votre rêve pour la suite ?
Waouh ! Mon rêve, bah moi déjà, c'est de trouver un travail et d'avoir un appartement et de vivre bien ma vie, et de plus peut-être avoir moins besoin d'aide et tout. Et voilà, partir dans plein de pays et tout, découvrir plein de choses et voilà, vivre bien ma vie et être heureuse aussi.
Bah moi, c'est d'être heureuse. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est mon rêve. Aussi de partir au Canada, mais en voyage, ou peut-être vivre là-bas, mais c'est mon rêve en tout cas d'être heureuse, je veux vraiment être heureuse, c'est mon objectif de vie.
Pour comprendre les effets d'un parcours à l'ASE sur les vies d'adultes, il faut écouter les premiers concernés, les anciens enfants placés. Salomé Charpentier, aujourd'hui âgée de 26 ans, revient sur son parcours pour nous éclairer sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'il reste de l'ASE aujourd'hui dans sa vie d'adulte.
Bah, la maison, ça s'est dégradé très vite du côté de ma mère. Parce qu'en fait, ma mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais été officiellement diagnostiqué, mais qui a des problèmes de santé mentale assez sérieux, qui va avoir des phases de dépression extrêmement sévères avec des comportements extrêmement dans l'extrême, que ça soit au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue. Et puis, il y a eu vraiment une grosse descente aux enfers pour ma mère, qui a fait que j'ai fini par fuguer de chez elle. Donc là, j'avais 13 ans à l'époque. Et en fait, en revenant de cette fugue, ma mère m'a mise à la porte et elle m'a vraiment jetée dehors. Et donc, ensuite, je me suis retrouvée au commissariat, en fait, un peu perdue. Et donc, moi, c'est la police, en fait, qui m'a pris en charge, qui s'est rendue au domicile de ma mère pour essayer de récupérer des affaires à moi ou d'essayer de parler avec ma mère. Puis quand ils ont vu l'état dans lequel elle était, ils ont décidé d'effectuer un placement d'urgence. Et donc, j'ai passé toute une journée au commissariat. Et en fait, en fin de journée, il me semble que c'était même la nuit, ils m'ont trouvé une place dans un foyer d'urgence. Et je pense qu'il devait être 22h ou 23h. Je connaissais personne. Il n'y avait même pas de chambre disponible parce qu'il s'est déjà saturé. Donc du coup, j'ai dormi dans la salle de jeu, je m'en souviens, à côté d'un baby-foot et c'était hyper étrange. Donc là, c'est vraiment le point de rupture, la bascule qui a fait que je suis rentrée dans les mesures de placement de l'aide sociale à l'enfance.
Pour vous, ça veut dire qu'il y a eu des changements entre 13-14 ans et votre majorité. Vous avez changé combien de fois de lieu d'accueil ?
Alors, j'ai changé de lieu d'accueil 3 fois, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que j'ai fait une première période dans la structure d'urgence où j'ai été placée dans le sud pour une durée approximative de à peu près 6 mois. Juste avant mon brevet des collèges, parce que j'étais en troisième à ce moment-là, j'ai été changée de structure, où j'ai carrément changé de région parce que ma famille du côté de ma mère et mon père était encore dans la région lyonnaise. Et à ce moment-là, le projet qui avait été décidé pour moi, c'était de tenter un rapprochement familial auprès de mon père. Ils m'ont changé de structure et je me suis retrouvée dans une MEX à Lyon. Une grosse bâtisse qui était un ancien monastère, si je dis pas de bêtises, où on est à peu près, on était une cinquantaine de jeunes entre 4 ans et 17 ans qui étaient accueillis. Je suis restée à peu près 2 ans là-bas. Après, j'ai eu des problématiques et je me suis fait virer de cette MEX et je me suis retrouvée dans une autre structure qui est une structure plutôt pour les 15-18 ans qui accompagne à l'autonomie. Qui prend la forme de petites maisons en colocation. On est 3-4 à vivre à l'intérieur avec le bureau, avec des éducateurs et des veilleurs la nuit. Et après, j'ai eu un appartement éducatif dans la même fondation sur Lyon. Donc là, c'était un appartement où j'avais un studio étudiant à moi toute seule. Mais le studio ne m'appartenait pas, c'était à la fondation.
Quand vous dites... Le projet qui a été décidé pour moi, c'était de me renvoyer à Lyon. C'est comme ça que vous l'avez vécu, qu'on a décidé pour vous, ou on vous a clairement pas demandé votre avis ?
Comment dire ? C'était aussi un argument pour me faire partir de la structure en temps et en heure. C'était aussi une sorte de projet où moi, j'arrivais pas du tout à me projeter là-dedans, parce que mon père, une fois que j'étais partie habiter chez ma mère, ne m'a plus jamais rouvert la porte de chez lui, de tout mon parcours à l'enfance jusqu'à que je sois adulte. Donc pour moi, c'était pas un projet envisageable, mais sur le papier, il faut travailler un projet familial. Ça faisait un petit peu ça. À 18 ans, je passe mon bac, après moult péripéties scolaires où j'ai failli être en déscolarisation, je m'accroche et avec les facilités que j'ai toujours eues à l'école, je réussis à rentrer du coup en terminale générale en économique et sociale et à passer mon bac. Et à 18 ans, normalement, la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance s'arrête. J'ai eu de la chance parce que, étant en train de passer mon bac, j'ai pu avoir une dérogation de 6 mois pour rester dans la structure dans laquelle j'étais accueillie. À ce moment-là, j'étais en appartement éducatif. Donc ça veut dire que j'habitais déjà toute seule dans un studio, mais qui ne m'appartenait pas. Je n'aurais pas eu cette dérogation, j'aurais pu me retrouver à la rue comme ça du jour au lendemain, alors que je passais à 3 mois du bac. Donc j'ai eu une dérogation qui m'a permis de passer mon bac, mais du coup, en préparant cet examen, je devais aussi préparer ma sortie d'aide sociale à l'enfance. Donc, trouver un logement, essayer de trouver un contrat jeune majeur. Donc, ça faisait pas mal de démarches administratives à faire.
Et vous êtes allée jusqu'où dans vos études ?
Je suis allée jusqu'au master en recherche. Dans le domaine des sciences sociales. Bon, j'ai fait 2 masters en même temps en 2024 à l'université et du coup à l'école normale supérieure. Donc ça, c'est vraiment ma petite fierté. Je suis contente d'avoir réussi à accomplir mes projets d'études. Et d'ailleurs, j'aimerais bien continuer sur un doctorat. J'ai dû pas mal bosser, faire plein de démarches administratives, demander des bourses à droite à gauche. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression à subir quand on est tout seul.
Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'ASE dans votre vie ?
Il me reste des avantages et des petits boulets qu'on traîne encore. Des avantages parce que ce parcours il m'a amené à prendre beaucoup de maturité très vite, il m'a appris à être très résiliente, il m'a appris à être très débrouillarde et à trouver des solutions à toute difficulté. Il m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont eu un parcours similaire au mien. Quand j'ai commencé un peu à essayer de témoigner sur mon parcours, à parler de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, je pense notamment au fait que j'ai pu suivre les travaux de la commission parlementaire qui a eu lieu sur les politiques de la protection de l'enfance et dont j'étais un membre du comité de vigilance qui était constitué majoritairement d'anciens confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc ça m'a permis de faire pas mal de rencontres et de pouvoir faire porter la parole des premiers concernés et d'améliorer peut-être les conditions de vie que peuvent traverser ces jeunes qui rencontrent un parcours similaire au mien. De montrer qu'il y a un après, voilà, ça c'est un peu tous les avantages de mon parcours à l'aide à l'enfance. Et puis bien sûr, on est loin du mythe de la méritocratie, ça c'est sûr qu'il y a toujours des marques qui persistent, il y a toujours des traumatismes qui font que je suis obligée d'avoir un suivi psychologique chaque semaine. Parfois il y a des codes sociaux qu'on a du mal à appréhender. Puis il y a des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance qui nous marquent et qui font qu'on a un peu du mal à avancer certains jours. Ouais.
La commission parlementaire qu'évoque Salomé portait sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance. Elle a eu lieu en 2025. Un document de 500 pages, porté par Isabelle Santiago, députée et rapporteuse de cette commission, a pointé des dysfonctionnements graves et structurels de la protection de l'enfance en France. Dans le cadre des auditions, tous les acteurs ont été entendus, et notamment des anciens enfants placés, regroupés dans un comité de vigilance. Parmi les membres de ce comité, il y avait l'une de ses fondatrices, Rania Kissi.
Mon placement s'est fait suite à des maltraitances physiques. Donc moi, je considère toujours que mon placement m'a sauvé la vie, sinon on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. En revanche, il s'est arrêté de manière brutale, puisque à 18 ans, je me suis retrouvée à la rue. Et suite à ce parcours de rue, je me retrouve dans un centre pour anciens détenus où j'avais pour voisin de chambre un ancien pédocriminel. Et c'est ce qui va forger le pourquoi on se parle, mon engagement et pourquoi j'ai dédié une partie de mon engagement à la protection de l'enfance et notamment aux enfants placés.
J'ai été placé de mes 13 ans jusqu'à mes 21 ans.
Abdenour Aklifaou.
Du coup, j'ai fait face à la mesure couperet. À 21 ans, fin du contrat jeune majeur, on se retrouve sans logement, sans allocation, sans rien. Et on est obligé de quitter ses études pour s'insérer professionnellement le plus vite possible. Et du coup, le combat continue. Moi, je suis acteur associatif, j'agis au niveau de l'éducation dans mon quartier, mais aussi prochainement sur la protection de l'enfance. Et j'ai rencontré Rania dans ce cadre-là. Elle a cofondé le comité des enfants placés. Et je l'ai rejoint en cours de route.
Dès 14 ans, je veux aller en voie générale parce que je veux être avocate. Et on me dit non, il faut aller en voie professionnelle, sinon il faut aller en CAP. Et ce moment, cet entêtement que j'ai, parce que moi je vais trafiquer des documents pour aller en voie générale et pas en voie pro. D'ailleurs, c'est important de le souligner parce que quand je trafique ce document, je passe ma seconde, ma première et ma terminale sans que personne sache où je suis. Moi, fort heureusement que j'étais à l'école et que j'adorais ça, mais j'aurais pu être dans d'autres raisons et notamment dans l'exploitation sexuelle et on n'en aurait rien su. Et donc moi je décide de dire la vérité et puis en fait quand je dis la vérité on considère que c'est un mensonge d'État, que c'est très grave. On peut considérer la gravité de l'acte et on peut punir en conséquence. En revanche, est-ce que la conséquence c'était de me mettre à la rue? Je pense pas. Et en fait la réalité c'est que le jour de votre anniversaire, donc moi le 26 novembre 2015, on arrive et on vous fait une réunion, y compris quand je vous dis le 26 novembre, on est en pleine trêve hivernale. C'est-à-dire qu'en fait, la trêve hivernale, on ne la concède même pas à ces enfants-là, tellement on ne les considère pas, en fait, on les déshumanise. Et donc, on me dit qu'on ne pourra pas m'accompagner parce que ce que j'ai fait, c'est très grave, etc. etc. Moi, je dis, mais en fait, moi, je suis inscrite à la fac. Donc, c'est soit vous m'accompagnez, soit j'irai quand même à la fac et j'abandonnerai pas mon rêve. Et donc, je me retrouve à la rue pour cet acte-là qu'on ne pourrait pas m'accompagner vers des études longues de type 5 ans. Parce que le contrat jeune majeur, aujourd'hui, c'est de 18 à 21 ans. Donc à 21 ans, il y a aussi cessation de droit et donc on considère que en fait on pourra pas m'accompagner sur le long terme. Donc autant ne pas me donner d'espoir et pas m'accompagner du tout. Elle est là la violence et donc je me retrouve dehors. Et moi je pense qu'une des premières inégalités, à la fois pour les publics vulnérables, mais aussi pour les, encore plus pour les enfants placés, c'est l'accès au droit, c'est l'accès à l'information. Typiquement, moi je le raconte souvent que le jour où j'ai découvert que j'étais boursière échelon 7 et que les APL existaient et qu'en plus quand on m'avait fait un virement, c'était de manière rétroactive et donc j'avais eu 2000 euros sur mon compte, moi je me sentais millionnaire. Je me disais, ah oui, ok, dans mon pays ça existe. Les bourses existent, les APL existent, et c'est cet accès au droit, le mot recours, c'est pas un mot que je connaissais, c'est bien plus tard en rencontrant des personnes qui m'ont aidé, qui elles ne faisaient pas partie de la protection de l'enfance, qui m'ont aidé à faire des recours, et encore une fois, en faisant ces recours-là, on n'a pas trouvé d'autres lieux pour me recaser, me replacer, parce que c'est le terme qu'on utilise à notre égard, qu'un centre pour anciens détenus où j'avais pour voisin de chambre un ancien pédocriminel, comme je vous le disais. Est-ce que c'est la place d'un enfant dont l'État avait la responsabilité? Et me concernant, j'étais pupille de l'État. Techniquement et juridiquement, mon père et ma mère, c'était à la fois Marianne et l'État français. Et donc, c'est vous dire aussi comment la défaillance, elle se matérialise aussi à travers nos parcours.
Ce que j'entends, moi, c'est que dans les parcours, beaucoup ont trouvé des gens qui les ont vraiment aidés, qui les ont aidés à se construire.
Philippe Fabry, chercheur et ancien éducateur.
Et je pense à un jeune que j'accompagnais il y a longtemps maintenant qui souhaite écrire un livre et on discutait des deux parties du livre. Et une première partie, c'est ce que j'aurais pas dû vivre. Et en même temps, la deuxième partie, parce qu'il m'a quand même aidé à me construire. Et c'est des gens qui sont engagés auprès d'eux. C'est des gens qui ont fait sens pour eux. Et donc, ça, on le retrouve dans la parole des anciens jeunes placés. Mais on trouve aussi qu'ils ont subi parfois des décisions brutales. Ils ont subi des lieux qui étaient violents. Je dirais qu'ils disent beaucoup aussi combien sont nombreux ceux qui ont vécu un lâchage institutionnel. C'est-à-dire, là récemment, une jeune femme me disait, ben moi, mon éducatrice, elle comptait énormément pour moi. Il y avait une aide à domicile. Vraiment, elle m'a aidé. Hein. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de devenir éducatrice. Mais je lui en veux parce que quand j'ai 18 ans, du jour au lendemain, elle a arrêté de m'appeler. Donc, voilà, il y a des jeunes, ils ont vécu un lâchage familial, puis un lâchage institutionnel. Hein. Alors, c'est pas généralisé, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Et je pense qu'il faudrait réfléchir à comment on soigne les transitions. C'est-à-dire un jeune dont on s'est occupé plusieurs années, ben pour moi, c'est pas optionnel. Hein. On continue, s'il est d'accord, de prendre des nouvelles, de l'inviter à venir en donner. Si je me suis occupé d'un jeune, je le lâche pas.
Abdenour, vous avez 21 ans. Vous me disiez que votre contrat jeune majeur s'est arrêté il y a quelques mois. Ça s'est passé comment pour vous?
Ça s'est passé un peu de la même manière que Rania. Moi, j'ai toujours eu la volonté de poursuivre des études. Seulement, j'étais un élément, je dirais pas perturbateur, mais qui était pas adapté au rythme scolaire qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, j'ai dû subir un tas de transitions. Voilà, les passerelles de remobilisation scolaire, la SECPA, les ULIS, etc. Ça m'a gâché 2 ans de scolarité. Du coup, j'ai passé au bac à environ 18-19 ans, soit 2 ans de retard par rapport à la moyenne. Ce qui m'a permis quand même de prouver l'importance d'avoir un contrat jeune majeur, de dire qu'il fallait que je continue ma licence. Sauf que, en fait, ça s'est pas passé comme je le voulais. À 21 ans, moi, on m'avait présenté plusieurs dispositifs après mon contrat jeune majeur pour continuer mes études. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que je suis arrivé devant ma référente à ZEU et qu'elle m'a dit, ben en fait, Abdenour, ça va pas être possible parce que tu gagnes pas assez d'argent, parce que t'es pas inséré professionnellement. Et je lui ai demandé, mais naturellement, mais le fait d'avoir un master et le fait d'avoir un doctorat, de soutenir une thèse plus tard, ça fait pas partie de vos objectifs? Elle m'a répondu non, non. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé mon contrat et je me suis retrouvé dehors, un peu comme la majorité des enfants placés.
Il voudrait continuer
quand ils arrivent à la majorité, ils voudraient avoir un contrat avec le département.
Éric Delemar.
Ils ont une scolarité. Ils peuvent même pas aller au bout de l'année.
Défenseur des enfants.
Alors, de là à finir son CAP, son BEP, etc., ils voudraient faire des études longues. On leur dit non. Ah ben non, non, parce qu'à 21 ans, ça va s'arrêter. Donc, si tu veux faire la fac, si tu veux faire des études longues, ah ben non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça fait, depuis tout petit, on leur dit que c'est pas pour eux. Donc, vous voyez, c'est cette souffrance-là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a ce phénomène de culpabilité, de honte, qui, et de boulet au pied. Ils y sont pour rien. Ils étaient en danger chez eux, c'est eux qu'on retire. Ils ne sont pas les auteurs des violences et c'est eux qu'on retire. Et comme ça, c'est jalonné de difficultés et dans tous les domaines, dans leur santé, dans l'insertion. Alors certains s'en sortent énormément, et heureusement, parce qu'ils ont, aussi eu des professionnels, des figures d'attachement qui n'ont pas changé tous les trois mois. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est un vrai enjeu. On a un tel manque d'éducateurs, une telle mobilité, un tel turnover des professionnels. Comment on peut construire comme ça? Et après, on s'étonne que les jeunes vont attaquer ceux qui sont là pour, censés pour les aider, parce qu'ils vont attaquer le lien. En fait, ils vont venir dire, mais toi qui me dis que t'es là, qu'est-ce qui me garantit que tu vas être là demain? Donc je vais te pousser à bout pour voir si tu vas vraiment être là. Voilà, ça, on connaît bien ça en termes de processus psychique, de création et d'attaque du lien. Ils sont en sidération et en insécurité permanente.
En France, un enfant quitte le foyer familial à 24 ans.
Ragnac ici.
Pourquoi l'État le fait avec les enfants les plus vulnérables et les plus qu'elle a aussi en protection à 18 ans? Il n'y a aucune logique. Donc peut-être on pourrait se mettre à hauteur de tous les Français et déjà accompagner jusqu'à 24 ans. Ça, pour moi, ça devrait être la règle. Ensuite, il y a du cas par cas. C'est-à-dire que si la personne elle est autonome à 21 ans, c'est OK. Si elle est autonome à 23 ans, si elle a eu un parcours classique, licence, master, et qu'elle arrive à s'insérer dans le travail, c'est que nous, on plaide pour jusqu'à l'autonomie. Et cette autonomie, elle doit être effective. Elle peut être à 24 ans, elle peut être un peu avant. Et puis, nous, on a conscience qu'on est les enfants du service public. Moi, je le dis tout le temps, j'ai beaucoup de fierté aujourd'hui à payer des impôts et même j'ai beaucoup d'amour à l'égard de mes compatriotes français qui, chaque année, payent des impôts. Et grâce à ça, moi, j'avais une brosse à dents. Grâce à ça, j'avais un lit. Que grâce à cet argent-là, à un moment ou à un autre, on a été protégé. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de demander un accompagnement éternel.
Un adulte qui est inséré professionnellement, c'est rentable. C'est rentable pour la société, c'est rentable pour l'État. Un adulte qui travaille, qui paye ses impôts, qui paye ses charges, qui est dans une classe supérieure, il est très rentable pour l'État. Mais pour l'instant, on a un blocage. À 21 ans, on se fait mettre dehors, quoi.
Aujourd'hui, de la protection de l'enfance, comment elle va? Comment elle se porte? Éric Delemar, défenseur des enfants.
Si nous regardions ensemble les textes, tous les deux, si nous regardions, par exemple, la loi de 2007 en protection de l'enfance, la loi de 2016, la loi de 2022, on verrait le projet pour l'enfant, on le verrait le maintien des liens dans la loi de 2016, on verrait la préparation de la majorité dans la loi de 2016, dans la loi de 2022, on verrait la fin des hôtels, des placements d'hôtels. Enfin, vous imaginez l'hôtel? Imaginez un parent qui mettrait son enfant de 15 ans à l'hôtel. Il aurait au moins une amende ou il serait convoqué. Par contre, des établissements, des départements peuvent le faire. Vous voyez le paradoxe, quoi. Donc, si on regardait la loi théorique ensemble, écrite, hein, la table de la loi, on dirait, mais oh là là, trois lois de protection de l'enfance en 15 ans. Mais par contre, il y a une distorsion totale d'appréciation entre les plans de lutte pour lutter contre les violences faites aux enfants, les plans gouvernementaux, et la réalité de terrain. Il y a un gap, une distorsion totale d'appréciation.
Si vous demandez à des parents quelle différence il y a entre un signalement et une information préoccupante, ils ne pourront pas vous dire parce qu'eux ne la font pas. Mais si vous regardez les papiers de l'école, par exemple, bah, ils vous font des listes de dangers. Puis il faut faire une petite croix en haut si c'est un signalement ou si c'est une IP. En fait, on a voulu déjudiciariser l'ASE en 2007 et on a abouti au contraire.
Philippe Fabry, chercheur et ancien éducateur.
On a un système qui est beaucoup trop judiciarisé. Et ça vaudrait le coup d'être un peu européen, de voir comment s'y sont pris les pays qui ont voulu, comme nous, déjudiciariser et qui ont un peu mieux réussi. Comment ils ont fait? Eh bien, l'idée que j'en retire, c'est qu'ils ont bien séparé ce qui est prévention, c'est-à-dire une première ligne dans laquelle on travaille sur les difficultés des enfants sans attendre qu'il y ait besoin de faire un signalement ou une IP. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus qu'une assistante sociale pour 1000 élèves dans les écoles. Ça veut dire qu'il faudrait développer le travail social à l'école. Chez nous, c'est sous-développé. Il faudra développer vraiment une première ligne qui soit hors, on va dire, ASE et hors justice. Ensuite, une deuxième ligne proprement ASE, mais que les Belges appellent l'aide consentie. C'est-à-dire on ne travaille qu'avec l'accord des parents et on prend le temps de construire un accord. Et ça prend du temps parce que personne n'a envie d'avoir des gens qui viennent fourrer leur nez dans votre vie. Donc pour défendre qu'on va faire intrusion dans la vie des familles, ben, il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi, de batailler. Et ce temps-là, dans les logiques de signalement et d'IP, on l'a pas, quoi. Hein. Et du coup, on rentre trop brutalement dans le système. Et le système produit aussi trop de ruptures, parce que quand on passe du milieu ouvert au placement, ben, ceux qui ont suivi en milieu ouvert s'arrêtent brutalement de travailler. Quand l'enfant a été suivi plusieurs années dans un placement, il rentre chez lui, les travailleurs sociaux s'arrêtent brutalement. Donc je dirais que on a des problèmes un peu structurels quand on regarde l'ensemble du système. L'entrée dans le système, c'est trop dans l'urgence, c'est trop brutal, c'est trop intrusif. Ensuite, les parcours, ils sont semés de beaucoup trop de ruptures, à mon avis.
Ces dysfonctionnements de la protection de l'enfance occupent une place de plus en plus importante dans le débat public et l'espace médiatique. Mais depuis quand le système dysfonctionne? Nous pourrions aussi nous poser la question suivante: existe-t-il un âge d'or de la protection de l'enfance? Avec Antoine Rivière, historien, nous allons comprendre que ce qui peut apparaître comme un effondrement récent était déjà une réalité il y a presque un siècle.
On pourrait dire que l'âge d'or de la protection de l'enfance en France va, si on veut donner une date précise, 1874 à 1914. 1874, la loi Roussel. 1914, début de la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que c'est l'âge d'or? C'est l'âge d'or parce que, d'abord, les principes de l'assistance à l'enfance sont enfin fixés par les réformes législatives successives, de la loi Roussel jusqu'à la loi du 27 juin 1904. Donc on a les outils pour agir en matière de protection des enfants. Deuxièmement, on a un financement qui, dans la période de restrictions budgétaires de l'époque, est relativement généreux. On n'a jamais autant dépensé en matière de protection de l'enfance que dans cette période-là. Et on a clairement un idéal. L'idéal, c'est de donner aux enfants qui sont recueillis par les services d'assistance une vie de substitution, une nouvelle vie pour être régénérée, disent les réformateurs de l'époque. Régénérée, c'est-à-dire que ces enfants qui viennent de milieux où ils sont soumis à des mauvais traitements, à une mauvaise influence morale, eh bien, en les retirant à ce milieu délétère, on va en quelque sorte leur permettre un plein épanouissement qui va les écarter des dangers du monde moderne, de la civilisation industrielle, de la grande ville, en les plaçant dans des familles d'accueil, alors on dit à l'époque des familles nourricières, à la campagne. Et puis ces enfants-là, on va aussi leur donner une instruction. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que quand on regarde la façon dont se déroule dans ces années-là la prise en charge de ces enfants, bah, ces enfants y survivent. La mortalité des enfants assistés va être ramenée à la mortalité des enfants ordinaires. Sauf que ça va commencer à se gripper juste avant la Première Guerre mondiale, du fait d'une difficulté de plus en plus grande des services sociaux à trouver des familles nourricières. Ça s'explique par les mutations socio-économiques, un relatif enrichissement des campagnes, donc de moins en moins de paysans qui doivent compléter leurs revenus par cette activité nourricière. Et donc, un certain nombre de services départementaux vont recourir de plus en plus à des placements collectifs. La pénurie est telle que de plus en plus, ces enfants vont rester longtemps dans ces foyers-là. Donc ça, c'est le premier signe de la fin de cet âge d'or. Le deuxième signe, c'est un certain nombre d'indices qui nous laissent à penser que l'assistance publique croit de moins en moins dans le fait qu'elle va, en quelque sorte, réhabiliter, régénérer ces enfants qui viennent de milieux considérés comme dégénérés. Pourquoi ? La Première Guerre mondiale va faire émerger une nouvelle population d'enfants sans famille, c'est les orphelins de guerre. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces orphelins de guerre ? On ne peut pas mélanger les enfants des héros morts au front pour le pays avec les enfants des fimères, des ouvriers alcooliques, des parents maltraitants, parce que il y aurait quelque chose d'inconvenant à mélanger ces deux populations. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est en train de faire de ces enfants du malheur, de la misère, de l'abandon, des individus fréquentables, honnêtes, dignes, si on refuse de mêler avec eux les enfants des héros morts sur le front ? Ben, la réponse est non. Si on ne les mélange pas, c'est parce qu'on a bien conscience que finalement, le destin qu'on donne aux enfants assistés ordinaires, c'est un destin de seconde zone. C'est la fin des illusions, cette période de la guerre. La protection de l'enfance donne l'impression d'être un système toujours en crise, toujours dépassé. Mais dès l'entre-deux-guerres, un certain nombre de professionnels commencent à dire « Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de proposer la même chose pour les enfants abandonnés, pour les orphelins, pour les moralement abandonnés dont les parents ont été déchus ? Après tout, pourquoi on ne serait pas aussi souple dans la façon dont on les traite, la façon dont on leur permet de se choisir un destin professionnel, etc. » Et donc, c'est le début des doutes sur la capacité à être véritablement dans l'accompagnement de ces enfants plutôt que les forcer dans une voie qui n'est pas épanouissante. Et puis, l'impression d'être dans une politique qui est insatisfaisante, elle va se renforcer après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est dans une situation, cette fois, où la population d'enfants pris en charge par les services d'assistance change. Elle change objectivement. Les enfants qui sont recueillis par les services départementaux d'assistance à partir des années 30, en réalité, sont de moins en moins des enfants jeunes, parce qu'il y a de moins en moins d'abandon. Il y a de moins en moins de nouveau-nés qui arrivent et qui sont donc, pour ainsi dire, une pâte encore à modeler et donc qui pourraient effectivement s'acclimater dans ce milieu d'accueil de substitution, qui pourraient être en quelque sorte modelés comme l'État pense qu'il faut les modeler. C'est des enfants qui sont de plus en plus des enfants âgés, qui sont de plus en plus des enfants qui arrivent non pas parce qu'ils ont été abandonnés, mais parce qu'ils ont été placés à la suite d'une décision de justice de les retirer à leurs parents. Et donc ces enfants, ils arrivent plus âgés, déjà dans l'idéologie de l'époque, pervertis par le milieu d'où ils arrivent, et donc ils ne sont pas modelables. On ne peut plus leur redonner une moralité, une éducation correcte, on ne peut plus les attacher à la terre, au travail agricole. Très souvent, ils viennent des centres urbains. Et donc, vous avez, pour la première fois, c'est formulé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au tout début des années 50, par un certain nombre de responsables de l'assistance publique, qui disent « Notre système est en crise. » Et il est en crise parce que notre public a changé. Et désormais, nous devons gérer, en quelque sorte, des individus pervertis. Et donc, ce qu'on fait, c'est plus de l'éducation, c'est de la rééducation. C'est plus de l'accompagnement éducatif, c'est de la correction de perversité, de tendances criminelles, etc. D'autant plus que le sentiment de crise est, là aussi, périodiquement à travers l'histoire, accentué par la révélation d'un certain nombre de scandales. On a oublié, sans doute, mais la difficulté qu'a créée pour les services d'assistance à l'enfance la révélation par Alexis Danan dans les années 30 des mauvais traitements qui avaient lieu à l'intérieur des institutions de protection de l'enfance. Ça a amené effectivement à une remise en cause, alors forcée, hein, mais de la part d'un certain nombre d'acteurs de cette protection de l'enfance, un doute. Est-ce que, après tout, est-ce qu'on fait du bien à ces enfants quand on voit révéler par la presse les mauvais traitements dont certains sont victimes ? Et ça a amené aussi à une crise de vocation. Il y a de plus en plus de difficultés, dès les années 30, à recruter des travailleurs sociaux, comme on dirait aujourd'hui, pour s'occuper de ces enfants de l'assistance. Donc, d'une certaine manière, on a plutôt l'impression qu'en effet, c'est l'identité même de cette institution que de se penser comme toujours inadaptée, toujours en crise et toujours dans la difficulté. Thank you.
il reste beaucoup d'amour parce que, mine de rien, et je pense que c'est aussi là, je viens d'avoir 29 ans et donc ça fait maintenant 11 ans que je suis sortie du système de protection de l'enfance. Mine de rien, il reste beaucoup de reconnaissance. Typiquement, là, cette année, je me suis donné comme objectif de retrouver la juge qui m'a sauvé la vie, puisque moi, je vous ai dit que mon placement a été salvateur. C'est parce que j'arrive devant cette juge et pour la première fois, elle demande aux adultes de sortir. Et vraiment, j'ai 10 ans et elle me dit « on va parler que toi et moi ». Et on reste dans cette pièce et elle me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Et en fait, je lui réponds une réponse d'un enfant de 10 ans. Je lui dis « j'aimerais bien un chocolat chaud ».
Rania qui ici.
Elle s'attendait à ce que je lui dise « qu'est-ce que je veux comme vie ?» Et en fait, elle me ramène ce chocolat chaud et elle me dit « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Je lui dis « j'aimerais bien qu'on fasse de la lecture ». Et pendant 30 minutes, on lit. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de moi, on ne parle pas des maltraitances que j'avais vécues. Et elle portait une robe rouge. Et je sais que j'aime le rouge grâce à elle. Et donc, je garde beaucoup d'amour. J'étais drainée aussi, la rue, et même le fait qu'on ne vous laisse pas réaliser vos rêves, etc. C'est beaucoup de haine et beaucoup de rage, je dirais même. Moi, c'est la rage. Le jour où j'ai eu mon diplôme de juriste, je ne suis pas allée le célébrer avec mes amis. Je l'ai envoyé par la poste à la psychologue qui m'avait dit « Non, tu ne pourras jamais devenir avocate ». Donc, vous voyez à quel point on fait aussi... Malheureusement, on a des parcours de vie qui sont drainés par le fait que personne n'a cru en nous, qu'on a été abandonné et le système a participé à ça. Mais avec du recul, j'ai beaucoup d'amour.
On tire un peu des balles dans le pied des éducateurs en disant « Ouais, mais des fois, il y a des abus, etc. » Mais c'est aussi les éducateurs qui permettent de nous émanciper. Moi, j'ai le souvenir de beaucoup d'éducateurs qui étaient vraiment bienveillants.
Abdenour Aklifaou.
Pour la majorité, ils nous ont valorisés, ils nous ont mis en avant. Et même les dames de chambre, on les appelait tata. On se considérait entre frères. Et il y avait des plus petits que nous, on faisait attention à eux. Et les plus grands que nous faisaient attention à nous. Du coup, on était vraiment dans un esprit de famille, quoi. Vraiment l'amour, ouais.
C'était Protection de l'enfance, des histoires du quotidien. Quatrième épisode, Trouver sa place. Avec Frédéric, José, accueillant durable et bénévole, et leur petite fille. Sarah et Anaëlle, jeunes majeurs confiés à l'ASE. Salomé Charpentier, membre du comité de vigilance des enfants placés, ancienne enfant confiée à l'ASE. Rania Kissi, avocate, cofondatrice du comité de vigilance des enfants placés et ancienne enfant confiée à l'ASE. Abdenour Aklifaou, membre du comité de vigilance des enfants placés et ancien enfant confié à l'ASE. Antoine Rivière, historien. Philippe Fabry, chercheur et ancien éducateur. Éric Delemar, défenseur des enfants auprès de la défenseure des droits. Merci à Arnaud Durieux, directeur du pôle enfance de l'association OSE, pour nous avoir permis de rencontrer ses équipes et les jeunes accompagnés. Merci enfin à toutes les personnes que nous avons croisées durant ce parcours en protection de l'enfance. Prise de son, Jean-Guilain Meige et Manon Houssin. Mixage, Guillaume Ledu. Chargé de programme, Marivonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Xavier Nau, réalisé par Thomas Duterre. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.